Collective, des portraits sonores au féminin de Résonance Sonore. Un média de proximité soutenu par la DRAC Occitanie.
Le bowling, je suis tombée dedans quand j'étais petite, on va dire. Mes parents se sont rencontrés dans un bowling et pour moi, c'était une évidence de partager leur passion. Et du coup, leur passion est devenue mon sport. Moi, c'est Alexandra Lopez d'Andrade. J'ai 24 ans et je suis membre du Pôle France depuis maintenant 10 ans. Il est basé sur Toulouse et on est en partenariat avec le CREP de Toulouse, qui nous accompagne dans notre projet sportif et notre projet scolaire. Quand on dit « oui, je suis sportif du haut niveau en bowling », les gens rigolent ou ils pensent que c'est une blague. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, ça m'impactait beaucoup. Et des fois, j'avais même pas envie de le dire forcément que j'étais sportif du haut niveau dans cette discipline. Ou alors, je disais « je suis sportif du haut niveau », puis si on ne posait pas la question dans quelle discipline, changer de sujet en fait. Et puis au fur et à mesure, je me suis vraiment... sentie bien dans cette discipline, j'ai pris mes marques. Je me suis dit, mais pourquoi avoir honte d'une discipline avec laquelle je suis épanouie? Après tout, si les gens ils me posent la question, j'en suis fière. Et au moins, les gens ils vont connaître la possibilité du sport de haut niveau en bowling. Et dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas. Et au fur et à mesure d'en discuter, en fait, ils sont vachement intéressés. Ils posent beaucoup de questions. Et c'est vrai que ça fait plaisir. L'ambiance des compétitions, elle est très intense, donc surtout quand on joue en équipe. Il y a cette gestion du stress. Alors oui, on va entendre les boules partir, les quilles tomber. Là, actuellement, on ne peut pas le faire, mais il y a aussi beaucoup de claquements de mains parce qu'on a des petits... de la gestuelle quand on réussit. Donc avec notre partenaire, on peut se donner la main, enfin claquer la main, etc. Donc c'est très intense. Du coup, on est dans un moment où on peut être très heureux et du coup, il faut réussir à redescendre pour performer lors du prochain lancer. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus calme parce qu'il n'y a pas les supporters, il n'y a pas les coachs de plusieurs joueurs, il n'y a que le coach du pôle. Mais c'est vrai que ça peut être très, très mouvementé, beaucoup de bruit. Certaines personnes nous disent souvent « tu passes tout un week-end avec ce bruit de quilles qui tombe ». Mais en fait, nous, on les entend même plus. Moi, personnellement, quand je joue, je ne m'en rends pas compte. Je suis vraiment dans ma bulle et en fait, si je ne me concentre pas sur les quilles qui tombent, je ne les entends même plus. J'entends les quilles qui tombent, les bruits quand je suis en dehors de la zone de jeu. Quand je suis pas sur la piste, mais une fois que je suis sur la piste, j'entends strictement rien. Donc voilà, je pense que c'est un point fort aussi, c'est-à-dire que je me mets dans ma zone de performance, dans ma bulle, pour être le moins perturbée possible. Mon environnement doit pas être un facteur me limitant à ma performance.
Je suis Patrice Siradey, je suis responsable du Pôle France Bowling. Alexandra, c'est une jeune femme qui travaille énormément, qui est très très persévérante, très accrocheuse et qui ne lâche jamais rien. Beaucoup de travail qui fait qu'à l'heure actuelle, elle est incontournable au niveau des équipes de France.
Comme je suis membre du Pôle France de Toulouse depuis maintenant 10 ans, je travaille avec Patrice Serradei. Donc c'est mon coach qui me suit du coup maintenant depuis 10 ans. Il y a une relation de confiance en fait qui se crée, qui est très importante parce que justement, lors de ces championnats qui durent des fois 10 à 15 jours, il faut avoir confiance en son coach parce que des fois, on va manquer de lucidité. Donc lui, il est là pour nous dire, regarde, tu dois aller dans cette direction-là. Ça nous permet d'avoir un retour direct, de nous sortir aussi de notre zone de confort. Parce que quand ça fait plus de 10 ans qu'on s'entraîne dans notre pratique, on peut rester dans notre zone de confort et de se dire, je vais m'entraîner tous les jours, mais de la même manière ou faire le même fonctionnement. Et cette personne qui peut nous dire, aujourd'hui, tu vas t'entraîner de cette façon-là parce que hier, j'ai vu qu'il s'est passé ça, ou parce que moi, je suis allée sur une autre compétition et j'ai trouvé que ça, c'était important. Et je pense que c'est vraiment pour nous sortir de notre zone de confort et pour avoir un accompagnement dans la durée. Après, faut savoir aussi que du coup, maintenant, je suis dans le collectif senior. Là, c'est d'autres coachs qui font les sélections pour les autres compétitions et qui nous accompagnent lors d'autres compétitions. Donc, c'est d'autant plus enrichissant parce qu'ils ont des qualités différentes. Je dirais que ça se passe très bien. Il faut apprendre à connaître le comportement, les émotions de l'autre pour pouvoir bien travailler ensemble.
Nous avons des machines à huiler très sophistiquées. Ce sont des engins qui coûtent entre 25 et 30 000 euros. Et dans l'objectif est de nous préparer les pistes. Donc ça va nettoyer la piste avec du produit, ce qu'on appelle des produits dégraissants. Et ensuite, on fait des huilages. Nous avons des programmes de huilage sportif, loisirs, des huilages médiums. Mais l'intérêt pour nous, c'est d'apprendre sur des huilages sportifs. Et vous le voyez visuellement, les différences qu'il y a entre les zones huilées et les zones non huilées. En fait, globalement, une piste fait de la zone de lancer à la première quille, ça fait 18 mètres. Et on peut dire que globalement, les pistes peuvent être huilées de 12 à 15 mètres. Le but, c'est d'arriver à maîtriser le huilage et la progression du huilage, parce que chaque fois que l'on lance, chaque fois que la boule est lancée, elle enlève de l'huile dans une partie de la piste et elle la met dans une autre partie. Et donc les trajectoires de boules se modifient au fur et à mesure du temps. C'est ça la difficulté.
C'est nous qui choisissons les boules avec lesquelles on veut jouer. Après, faut savoir que sur la piste de bowling, il y a de l'huile. Et du coup, cette huile, au fur et à mesure, elle bouge. Soit elle se creuse, soit elle va aller beaucoup plus loin sur la piste. Du coup, les réactions de boules, elles vont être différentes. Et il y a plusieurs paramètres de performance qu'il faut prendre en compte si on veut encore avoir de la scorabilité. Donc, par exemple, je peux choisir de changer de boule. Mais du coup, j'en ai encore 4 ou 5 dans mon sac derrière et il faut prendre la bonne. C'est là aussi toute la difficulté, c'est de se dire, OK, celle que j'ai dans les mains, elle ne passe plus, mais il faut bien choisir celle qui va être dans nos mains pour le prochain lancer. Alors, être sportif de haut niveau, maintenant, ça me détermine en tant qu'être humain, en fait. Je ne me vois pas pratiquer un sport juste pour le plaisir. Enfin, pour moi, c'est la gagne qui... Enfin, l'envie de gagner, l'envie de bien faire, l'envie d'être performante qui l'emporte. Et j'ai fait ce choix de vie quand j'ai été petite et je ne le regrette pas. Et je trouve que ça m'a fait grandir peut-être beaucoup plus vite que les personnes de mon âge. On s'enrichit beaucoup de cette expérience. On vit beaucoup en collectivité. On apprend à faire avec les autres. C'est très enrichissant, mais ça permet aussi de comprendre que les athlètes de haut niveau, quelle que soit la discipline, font beaucoup de sacrifices parce que on va pas forcément tous les week-ends rejoindre notre famille ou pouvoir discuter avec des amis. C'est beaucoup de travail et si on n'est pas prêt à faire ce sacrifice, on peut pas devenir un sportif de haut niveau, c'est pas possible. C'est une discipline qui est quand même très rigoureuse. Il faut savoir que c'est très technique. Il faut aussi une bonne analyse. On a aussi du matériel qui nous aide dans notre pratique, mais si on ne maîtrise pas ce paramètre, ça peut devenir très problématique pour la performance. Pour être performant au bowling, il faut être très relâché du haut du corps, beaucoup de gainage, et par contre, il faut être vraiment très stable au niveau du bas du corps. À la fin de notre approche, on a une glisse. On glisse, mais on s'arrête d'un coup. Il faut vraiment avoir de bons appuis. Et par contre, au niveau du haut du corps, il faut vraiment être relâché, pas forcé. Donc, on travaille tout ça lors de nos entraînements. On fait aussi beaucoup de proprioception pour être meilleur dans nos appuis. Un lancer de bowling, il faut vraiment une qualité première, c'est la stabilité à la ligne de faute. Pour pouvoir lancer toujours le même lancer, là où on souhaite que la boule passe. Donc si on n'est pas stable, ça rajoute une difficulté à la précision qui est primordiale dans notre sport. Donc forcément, on travaille la stabilité encore plus poussée que peut-être d'autres sports, je ne sais pas. Mais du coup, on va se rajouter des difficultés pour que le jour même où on est sur la piste, ça nous paraît plus facile. Thank you. Déjà, avant chaque lancée, j'ai ma routine de préparation qui est identique sur chaque lancée, qui est mes propres et qui va me permettre de me mettre dans ce qu'on appelle notre bulle pour réussir le lancer. Donc une fois que je suis sur la piste avec ma boule, là, à ce moment-là, je visualise la trajectoire que je veux faire. Je travaille sur deux points, donc un point qu'on appelle le break, donc c'est la boule là où elle va casser, et le point de passage qui est beaucoup plus près de moi. Et en fait, dans ma tête, je visualise cette trajectoire que la boule doit avoir pour faire strike. À partir de ce moment-là, je reste vraiment focus sur mes points de visualisation et après, ma technique fait le reste. Quand les quilles tombent et qu'on se retourne, en fait, on peut savoir si on a fait strike ou si on ne l'a pas fait. Le bruit d'un strike se reconnaît et quand on laisse une quille 10, ça s'entend aussi quand on a un peu l'oreille aguerrie. Mais là, c'est des joueurs avec qui je joue tous les jours. Donc, au bruit de la boule, je peux savoir plus ou moins qui a joué parce qu'on a des qualités différentes. Et un impact dans les quilles dû à la vitesse, à la rotation, différent d'un joueur à l'autre.
En fait, les boules sont arrêtées par la planche qui est ici.
Moi, ce qui me plaît, c'est toujours le dépassement de soi. Il faut toujours apprendre de nouvelles choses, parce qu'il y a du nouveau matériel qui sort, parce qu'il y a des nouveaux huilages qui sont créés. Il y a beaucoup de paramètres à maîtriser, et avant de maîtriser tout ce qu'on a la possibilité de maîtriser, c'est un défi tous les jours, en fait, parce qu'il faut toujours se renouveler, il faut toujours apprendre d'autres choses. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un sport qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'entraînement. Si aujourd'hui, j'ai pas scoré, si j'ai pas maîtrisé ma performance, je sais que je peux faire un bilan et me dire « Ok, qu'est-ce qu'il me faut pour la prochaine fois ?» Et j'ai qu'à retourner à l'entraînement et je travaille sur ces paramètres.
Là, on est derrière les machines.
Là, nous sommes derrière les machines, effectivement, donc beaucoup de bruit. Du mécanisme, toute la mécanique et puis le requillage. Donc les 20 quilles qui tournent, celles qui sont posées, et le bruit de la boule quand elle tape les quilles qui est assez impressionnant.
Et donc on peut reconnaître si c'est une fille ou un garçon qui joue.
Oui, l'impact de la boule dans les quilles, on arrive tout de suite à voir les différences de vitesse. Et en général, comme les filles ont moins de vitesse que les garçons, on est à même de voir un petit peu les différences quand on est positionné derrière. C'est quand même une première pour moi.
Je pense que ce qui me manque à l'heure d'aujourd'hui pour être encore plus performante, c'est peut-être une meilleure connaissance de mon matériel, de perdre moins de temps à changer un paramètre. Donc la boule ou la profondeur de pose ou l'axe de la boule. À l'heure actuelle, je suis trop passive lors de ces changements. Je mets, par exemple, une joueuse étrangère va peut-être mettre deux lancers à s'en rendre compte. Et puis moi, aujourd'hui, j'en suis encore à 4 ou à 5. Donc garder ce temps pour être plus réactive et du coup perdre moins de temps pour la scorabilité. Mes qualités, je pense que je suis très rigoureuse. Je suis assez précise dans mes lancers. J'ai un profil très compétitrice. Enfin, dans ma tête, c'est je vais pour gagner, mais enfin, quoi qu'il arrive, je pars pour une compétition, c'est pour la gagner. Donc après, bien sûr, il faut adapter ses objectifs au fur et à mesure, mais je suis déterminée. Ma plus belle compétition, ça a été les Jeux méditerranéens. On était deux filles et deux garçons. Ça a été pour moi une semaine riche en émotions parce que je ressors avec 6 médailles sur la semaine, dont un titre en individuel et une autre médaille d'or en individuel qui reflète toute la semaine de compétition. Et ce qui était beau, c'est d'entendre les Marseillaises tout au long de la semaine et aussi que mes coéquipiers, eux aussi, ont ramené beaucoup de médailles. Donc c'était vraiment bien de vivre ça ensemble parce qu'il n'y a personne qui est frustré parce que tout le monde était dans la réussite. Et c'est vrai que c'est beau de pouvoir partager ça avec ses coéquipiers, ses entraîneurs, sa famille. C'était vraiment une très, très belle compétition. Vraiment, je me suis dit que tous les sacrifices que j'avais pu mettre sur différentes années, en fait, ils payent. Que sans travail, il n'y a pas de résultat. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que je le vois dans mes résultats, parce que je le vois lors de mes sélections. Et du coup, ça fait du bien de se dire que la réussite, elle est au bout de tout ce travail, de tous ces sacrifices.
C'était Sportive. Merci à Alexandra Lopez d'Andrade et Patrice Serradei. Un portrait sonore réalisé par Agnès Gontier, mixage Sophia Riboloff. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.